La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Qu'on le veuille ou non, en 1956, on ne peut poser le problème des cultures noires qu'en poser en même temps le problème du colonialisme, car toutes les cultures noires se développent à l'heure actuelle dans un conditionnement particulier, la situation coloniale ou semi-coloniale ou paracoloniale.
Nous sommes en septembre 1956. Les étudiants noirs se pressent à l'université de la Sorbonne pour écouter leur maître à penser. Aimé Césaire, Jean Price Mars, Amadou Ampateba, Léopold de Cédar Senghor, Cheikh Anta Diop ou encore l'américain Richard Wright. Réunis à Paris pour tenir leur premier congrès, les écrivains et artistes noirs s'interrogent. Comment définir nos cultures noires et quel rôle les intellectuels que nous sommes peuvent jouer dans les luttes anticoloniales? Au cœur de cet événement sans précédent, la maison d'édition Présence africaine, sous l'égide de son directeur Alioune Diop, initiateur du mouvement pour la cause des Noirs. Noir est notre cause, c'est une série de 3 émissions écrites avec Amaury Auchard et mise en onde par Cécile Pompéani. Second épisode, Paris 56, les intellectuels noirs définissent leur rôle dans les indépendances.
Et sous l'autorité d'Alioune Diop, nous avons eu plusieurs réunions préparatoire auquel participait naturellement le chantre de la négritude, Aimé Césaire. Et puis il y avait aussi Léon Gontran Damas, le troisième mousquetaire de la négritude qui venait de la Guyane et qui avait le discours sec et nerveux comme un sermon créole. Ces hommes, Alioune Diop, Senghor, Césaire, nous rendaient intelligents et on s'empressait de nous mettre au service de l'Afrique. C'était un honneur pour nous, une gloire, et on était enviés parce que tous n'étaient pas appelés à ce travail-là autour de ces grands esprits qui étaient Césaire, Senghor, Alioune Diop et Léon Gontran Damas.
Paulin Joachim est un tout jeune poète de 25 ans, 1956. Il vient de publier son premier recueil intitulé « Un nègre raconte » et il est fasciné par les mousquetaires de la négritude. En tout cas, c'est ce qu'il vous a confié, Sarah Friou-Salgas. Bonjour.
Bonjour.
Comment ce premier congrès donc de 56 à Paris, à votre avis, est-il reçu par la jeunesse africaine à Paris, puisqu'il y a plein d'étudiants noirs qui sont obligés de venir à Paris pour étudier?
Évidemment, ils sont très excités de voir des écrivains, des historiens, des intellectuels qu'ils ont pu lire, mais qu'ils n'ont jamais rencontrés, jamais vus. Et je pense que ce qui est aussi excitant pour eux, c'est que Alioune Diop les a fait discuter avant aussi. Donc d'une certaine manière, ils sont acteurs de cet événement parce qu'ils ont réfléchi à tout ça avant. Comme il le dit, il y a eu des réunions préparatoires. Mais dès 55, Alioune Diop invitait les jeunes étudiants parisiens régulièrement à discuter sur des thèmes divers et variés comme l'ethnologie, l'économie, la culture. Et c'est ça qui est assez fort, je trouve, dans cet événement. C'est à la fois l'aspect spectaculaire de la Sorbonne, de ces étudiants qui assistent à cette grande rencontre et qui ont été vraiment intégrés à ce projet par Alioune Diop.
Par Alioune Diop et par donc sa revue Présence africaine, c'était l'objet du premier épisode de notre série sur laquelle vous nous accompagnez, Sarah Friou-Salgas, et je vous en remercie. Alors je rappelle que vous êtes historienne et responsable des archives du musée du Quai Branly. On l'a entendu, ce mouvement de la négritude, il est porté par différentes voix. Selon vous, quelle est la particularité de la voix d'Aimé Césaire?
Alors, ce qui est intéressant en 56, c'est que Aimé Césaire va tenir un discours très fort, hein, qui va un peu choquer les Américains présents au festival, hein, culture et colonisation, où il va comparer la situation coloniale des Africains à la situation de la ségrégation aux États-Unis. Et là, ça va vraiment être très compliqué. Et On se souvient de ce congrès aussi parce qu'il y a eu un débat très fort sur cette question-là. Est-ce qu'on peut comparer la situation des Africains-Américains et des Africains colonisés ? Et l'autre chose de 1956, c'est la voix d'Aimé Césaire est assez forte parce que le congrès a lieu en septembre et au mois d'octobre, il publie sa fameuse lettre à Thorez où il va quitter le Parti communiste français. Une de ses critiques, c'est le fait que le communisme, les communistes ne tiennent pas compte de la spécificité de la colonisation et du combat des Noirs. Mais cette lettre à Maurice Thorez est possible parce que il se sent très fort avec tous ces intellectuels des quatre coins de la Terre. Et notamment dans sa lettre à Thorez, si je peux lire un petit passage, il écrit « D'ailleurs ici, c'est la vie elle-même qui tranche. Voyez donc le grand souffle d'unité qui passe sur tous les pays noirs. Voyez comme ça et là se remaille le tissu rompu. C'est que l'expérience, une expérience durement acquise, nous a enseigné qu'il n'y a à notre disposition qu'une arme, une seule efficace, une seule non ébréchée, l'arme de l'unité. » L'arme du rassemblement anticolonialiste de toutes les volontés.
Et le grand artisan de cette unité, Sara Friou-Salgas, c'est Alioune Diop. Il reste le grand fédérateur de ce mouvement de la cause noire qui dépasse l'idée de négritude. Je rappelle que Alioune Diop est sénégalais. En 1956, il a 46 ans et il dirige la revue Présence africaine, devenue une maison d'édition, une revue depuis 1947. Une histoire que nous avons évoquée la semaine dernière dans le premier épisode de notre série Noire et notre cause, et c'est à retrouver sur RFI. Mais 10 ans plus tard, en 1956, Présence africaine va plus loin en s'inscrivant clairement dans le champ politique. Quel est l'enjeu pour Alioune Diop ?
L'enjeu pour Alioune Diop est de dénoncer clairement le colonialisme. Au départ, son engagement est censé être culturel et en 1955, donc un an avant l'organisation de ce congrès, il déclare sa revue comme étant une revue, on peut le dire clairement, anticolonialiste et antiraciste, hein, parce que la question des Africains-Américains se pose évidemment aussi. 1956, c'est un peu la conclusion et les enjeux de ce congrès, de réfléchir à comment faire face à la violence symbolique et évidemment physique et de tout la violence coloniale.
Écoutez la voix d'Alioune Diop dans la marche du monde. Au son de nos archives, nous revivons le tout premier congrès des écrivains et artistes noirs, septembre 1956 à Paris.
Nous avons, à l'occasion de ce premier congrès, eu la joie de faire la connaissance d'un homme dont l'influence sur les promoteurs de la négritude était considérable. Il s'agit de Price Mars, qui était alors professeur, sinon ambassadeur haïtien, et qui revenait à Paris à cette occasion.
Mesdames, Messieurs, nous sommes quelques 60 délégués venus de tous les horizons d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, qui avons répondu à l'appel fervent de Présence africaine, ce foyer incandescent de culture noire. Nous avons la prétention de représenter une multitude immense d'êtres humains répandus sur une grande partie de la surface terrestre et particulièrement en Afrique. Nous nous distinguons tous, ou presque tous, par une singularité indélébile. La couleur plus ou moins sombre de notre peau, parce qu'elle fut trop longtemps, pendant des millénaires, regardé par le soleil, selon l'image biblique.
Jean Price Mars, recteur de l'Université de Haïti, première république noire indépendante de l'histoire, ouvre le congrès devant un parterre effervescent de jeunes Africains. Alioune Diop s'est d'ailleurs adressé à l'un d'entre eux. Sa plume est incisive. Il est haïtien et deviendra le grand poète engagé René de Pestre.
Je vais voir Alioune Diop et je lui montre mon texte. Alioune, qui d'habitude est un homme d'un extrême sang-froid, d'une grande sérénité, Alioune prend la tête entre ses mains et me dit « Tu es drôlement inspiré, c'est une bombe que tu as écrite, ça va changer les données de notre congrès, le consensus que laborieusement j'ai mis au point ». pour réunir des gens de divers horizons. Et avec beaucoup de difficultés, notamment la délégation américaine, tu vas politiser d'entrée de jeu le Congrès. On va s'éloigner du débat concernant l'inventaire de l'héritage africain, de l'héritage noir aux Amériques, aux États-Unis, dans les Antilles, n'est-ce pas? On va avoir un autre Congrès, ça tu peux être sûr. Parce qu'il fallait se mettre dans l'atmosphère de l'époque. C'était la guerre froide. C'était la seule personne, quand Alioune Diop était en 1955, la seule personne capable de réunir sous un même camp universitaire à la Sorbonne, de réunir des gens aussi éloignés les uns des autres.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Pour Alioune Diop, la cause des Noirs doit être un combat fédérateur, mais pas univoque. Qu'ils soient descendants d'esclaves ou descendants de marchands d'esclaves, qu'ils soient dans le dialogue avec les puissances coloniales et impérialistes ou dans la rupture, tous les intellectuels noirs doivent pouvoir faire entendre leur voix. À Paris, en 1956, la culture a la vocation d'inspirer le politique.
Depuis quelques jours, on s'est beaucoup interrogé sur le sens de ce congrès. On s'est demandé en particulier quel est le commun dénominateur qui unit des hommes aussi différents que des Sénégalais et des Américains du Nord, des Dahoméens et des Antillais, des Nigériens et des Malgaches.
Maire de Fort-de-France et député, Aimé Césaire a obtenu que sa vieille colonie de la Martinique devienne un département français en 1946. Aux côtés d'Alioune Diop, depuis la création de Présence africaine, il est farouchement anticolonialiste. Il a publié dès 1950 son célèbre discours sur le colonialisme où il s'interroge sur les liens entre nazisme et colonialisme.
La réponse, ou du moins une des réponses, me paraît évidente. Ce commun dénominateur, c'est la situation coloniale. C'est un fait que la plupart des pays noirs vivent sous le régime colonial. Même les pays libres, comme Haïti ou le Libéria, sont des pays semi-coloniaux. Et nos frères américains eux-mêmes sont, par le jeu de la discrimination raciale, placés dans une situation qui ne se comprend que par référence aux mœurs du colonialisme, dont ces mœurs sont d'ailleurs une séquelle.
Aimé Césaire, en 1956, dans l'amphithéâtre Descartes, à la Sorbonne, à Paris, il est l'une des grandes voix politiques du premier congrès des écrivains noirs, où la question de la libération du peuple noir est au centre, Sarah Friot-Salgas, et pas seulement pour les colonies françaises, mais aussi pour les descendants d'esclaves aux États-Unis. Est-ce que c'est une dimension qui vous frappe, cette dimension panafricaine, pour ce congrès des écrivains noirs à Paris?
Ce qui est intéressant concernant les Africains-Américains, pour revenir à tout à l'heure, hein, c'est le débat que va susciter cette comparaison qui va choquer hein, quand même un certain nombre d'intellectuels africains-américains. Eux, ils avaient le sentiment de venir à un congrès culturel, qu'on allait faire un inventaire des cultures noires. Et en effet, là, Césaire politise le débat et va susciter vraiment un certain nombre de questions et va répondre aux réactions. Et il n'est pas le seul, en fait. Sangor va le soutenir également. Il compare un petit peu le combat américain au combat des Africains. Voilà.
Et par ailleurs, il ne faut pas oublier le contexte de guerre froide qui oppose l'Union soviétique et les États-Unis. Deux utopies politiques s'affrontent, le socialisme à l'Est et le libéralisme à l'Ouest. Ce qui d'ailleurs complique la venue des Américains, Sarah Friot-Salgas. Les USA à l'époque persécutent les communistes.
Tout à fait, et surtout ne vont pas permettre la venue d'un des plus grands penseurs du panafricanisme, un des plus grands penseurs africains-américains de l'époque, hein, qui est Du Bois. Et en effet, il y a Richard Wright qui est à Paris, qui aussi ne peut pas retourner aux États-Unis. D'ailleurs, il y a un livre vraiment très intéressant sur cette histoire des Africains-américains à Paris, de cet encadrement par la CIA, qui s'appelle « L'homme qui ne voulait pas se taire », que je vous conseille vivement, qui raconte un peu tout ça.
Donc Du Bois, qui aurait dû être la star du congrès, qui aurait même dû assumer le discours d'ouverture, s'est vu interdire de quitter le sol des États-Unis. Il s'agit du père du panafricanisme, le sociologue William Edward Burgard Du Bois, Du Bois, si l'on prononce en anglais.
Nous avons reçu un message du docteur Du Bois, d'Amérique.
To the congrès des écrivains et artistes noirs, présence africaine.
Je ne peux pas assister à votre réunion aujourd'hui, car le gouvernement des États-Unis ne m'accorde pas les documents pour me permettre de voyager à l'étranger. Le nègre américain qui voyage dans les pays étrangers de nos jours fera mieux de ne pas parler de la situation raciale aux États-Unis, ni de voir les choses que le département de l'État souhaite faire croire au monde. Ce gouvernement s'oppose à moi, surtout parce que je suis un socialiste. Et parce que je crois qu'il faut faire la paix avec les États communistes. Je crois particulièrement au socialisme pour l'Afrique, parce que l'histoire de l'Afrique est socialiste. Ils devraient construire un socialisme moderne en suivant l'exemple de l'Union soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Chine. Je vous souhaite un bon congrès.
Dr. Dubois. Gonna ride up in the chariot somebody morning, ride up in the chariot somebody morning, ride up in the chariot somebody morning. I hope I'm a giant fan. Look away, look away in the heaven, look away, look away in the heaven, look away, look away in the heaven. I hope I'm a giant fan.
À ce congrès de la Sorbonne, l'atmosphère était pesante.
Paulin Joachim, poète béninois.
On était éparpillés dans les cafés, mais on ne se retrouvait pas pour chanter, communier, non. Non, même pas pour dire des poèmes, c'était très rare. Très rare, parce que les poèmes, c'était des poèmes de douleur, de souffrance. Et il y avait du jazz, il y avait surtout des négros spirituels avec Louis Achille, qui était là, qui nous a beaucoup aidés, qui a détendu l'atmosphère, parce qu'il montrait aux Noirs américains que nous étions compatissants, nous étions avec eux, mais nous ne sommes pas responsables de leurs conditions. Moi, je ne peux pas. Je viens de Ouida. Ouida, c'est le point de départ de l'esclavage. Et je porte ce fardeau sur mes épaules jusqu'à la fin de mes jours, mais je ne me sens pas pour autant responsable de ce qui s'est passé.
I hope I'm enjoying the band.
En Amérique,
nous sommes là maintenant pour presque 3 siècles. Nous sommes américains, rejetés, et nous sommes dans les ghettos, mais nous sommes américains.
Si l'Américain Richard Wright peut participer au premier congrès des écrivains noirs de 1956, c'est parce qu'il est réfugié en France depuis déjà 10 ans afin d'échapper aux poursuites du gouvernement américain contre les communistes. Petit-fils d'esclaves, Richard Wright est le premier Afro-Américain à avoir publié aux États-Unis, un domaine réservé exclusivement aux Blancs.
Je suis Américain noir, mes ancêtres étaient des Africains. J'ai une compassion pour des Africains. Je voudrais essayer de comprendre le problème. Je voudrais travailler avec eux si je peux. Mais pas comme un Africain, parce que je ne suis pas Africain culturellement, je suis Américain. Et je voudrais faire les voyages, parler avec eux. Peut-être je peux comprendre intellectuellement, mais je ne peux pas sentir émotionnellement les choses comme ça. Les Noirs en Afrique étaient les victimes 2 fois. Premièrement, il est victime de la religion, les pratiques superstitieuses, les choses comme ça. Et après ça, il est victime des colonisations impériales, l'impérialisme, les choses comme ça. Et pour les gens comme ça, j'ai une sympathie énorme.
Richard Wright a pris la nationalité française en 1947. Il s'est engagé aux côtés des peuples coloniaux dans la lutte pour l'indépendance. À ce titre, il a participé à la conférence des non-alignés de Bandung en 1955, dont il a rédigé un rapport intitulé « Le rideau de couleur ». Pour Richard Wright et tous les écrivains présents au congrès de 1956 à Paris, le premier congrès des écrivains et artistes noirs doit être le Bandung de la culture, et c'est à suivre dans la marche du monde sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite de notre série Noir et notre cause et de son second épisode, Paris 56, Rome 59, les intellectuels noirs définissent leur rôle dans les indépendances.
Effectivement, depuis ce matin et pour 4 jours, Paris peut être considéré comme la capitale intellectuelle du monde noir, puisque 60 congressistes venant d'Afrique d'obédience française, britannique ou portugaise, d'Haïti, des États-Unis, des Antilles, se sont réunis dans l'amphithéâtre Descartes à la Sorbonne pour confronter leurs points de vue d'écrivains, d'artistes, de musiciens, de sociologues sur la place de la culture noire dans l'humanisme universel et le rôle de l'écrivain et de l'artiste noir à l'égard des problèmes mondiaux. En cette époque où les problèmes des relations humaines des peuples de couleur avec les métropoles se posent avec acuité, ce premier congrès mondial des intellectuels noirs prend une importance particulière.
Un an après la conférence de Bandung de 1955, où le tiers-monde affirmait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le créateur de la revue et maison d'édition Présence africaine réussit à initier le premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris. Alioune Diop réunit les leaders intellectuels du monde noir afin de montrer comment la culture peut inspirer le débat politique.
Ce jour d'aujourd'hui sera marqué d'une pierre blanche si, depuis la fin de la dernière guerre, la rencontre de Bandung constitue, pour les consciences non européennes, l'événement le plus important. Je crois pouvoir affirmer que ce premier congrès mondial des hommes de culture noire représente pour nos peuples le second événement de cette décade. Noirs des États-Unis, des Antilles et du continent africain, quelle que soit la distance qui sépare parfois nos univers spirituels, nous avons ceci d'incontestablement commun, que nous descendons des mêmes ancêtres. Si la couleur de la peau n'est qu'un pur accident, cette couleur n'en a pas moins été responsable d'événements et d'œuvres, d'institutions et de lois sociales qui ont marqué de façon indélébile l'histoire de nos rapports avec l'homme blanc.
Comme tout président de séance, Alioune Diop était, comme toujours, modéré, discret et présent, attentif. Il était tout le temps là, mais sans faire de bruit, sans s'imposer. On savait que c'était lui le patron. Mais il n'empêchait pas les autres de parler plus fort que lui, qui ne s'en privait pas d'ailleurs.
Liliane Kesteloute est la première chercheuse à avoir écrit sa thèse sur la littérature africaine. Elle est présente en 56 à la Sorbonne et se régale de la présence des auteurs noirs, y compris des Afro-Américains comme le célèbre Richard Wright, exilé en France à cause de son engagement communiste. Quelques années plus tôt, Richard Wright a voyagé dans le pays de Kwame Nkrumah, la Gold Coast. C'est le futur Ghana, premier du continent à obtenir son indépendance.
Puissance noire, Black Power, ça porte le sens de la réalité de nationalisme noir en Afrique. J'étais en Afrique en 1952. J'étais invité par le premier ministre, le Côte d'Or. Maintenant, c'est Ghana. J'ai regardé 80 000 gens noirs dans un meeting politique. La foule chante, liberté, liberté, pleine de passion pour la liberté. Je dis, sans doute, ce peuple ici peut devenir libre vite. Aucune chose dans le monde qui peut empêcher son mouvement formidable pour la liberté.
Ils sont venus de tous les continents pour répondre à l'appel d'Alioune Diop et ils débattent en plein cœur de Paris du rôle des intellectuels dans l'émancipation des Noirs. Aux Antilles, en Afrique, en Amérique et partout, les hommes sont réprimés à cause de leur couleur de peau. Antillais, Africains, Américains, ils prennent la parole et débattent, confrontés à leur réalité. Mais est-ce que c'est la même réalité, Sarah Friou-Salgas ? Est-ce que c'est possible pour un Afro-Américain de partager la réalité d'un Africain uniquement parce qu'il est noir?
Quand on voit le débat qui a pu avoir lieu en 56, en tout cas les personnes qui sont présentes, en tout cas Mercer Cook, qui réagit activement et de manière peinée, comme il le dit, à la comparaison que Sangor propose, ça paraît pas évident. Mercer Cook dit même « qu'est-ce que je viens faire dans cette galère ?» C'est l'expression qu'il emploie. Et je pense que si Alioune Diop a rassemblé tout le monde, il sait aussi que c'est différent, mais que le combat contre le colonialisme en Afrique et le racisme aux États-Unis est un combat commun, parce qu'il y a, pour Césaire Senghor ou Alioune Diop, cette origine commune de l'esclavage. Les choses ne sont pas évidentes et c'est ça qui est évidemment intéressant.
Et la force du Congrès, c'est de permettre à ces différents intellectuels de ces différents continents de se rencontrer. C'est toute la dimension panafricaine qui d'un seul coup s'incarne en un même lieu qui est Paris.
Exactement, parce que les uns et les autres se sont lus, se connaissent, mais discuter de vive voix, c'est évidemment pas la même chose.
Il y a un choc
de la
rencontre.
Il y a un choc de la rencontre. Ouais. Quand Mercer Cook dit qu'il est peiné, c'est quand même un petit peu excessif pour... parler de quelque chose qui, d'une certaine manière, est évident depuis 1900. Le combat des Africains-Américains, des Africains et des Antillais est commun depuis un moment.
Nous avons eu beaucoup, beaucoup de participations qui venaient presque du monde entier. Les Américains, de toute l'Afrique, de l'océan Indien, et même de l'Inde, les Dravidiens qui sont venus.
Jacques Rabemananjara, écrivain malgache, militant anticolonialiste.
Quand on a vu ça, la presse à l'époque, vraiment de la droite jusqu'à la gauche, n'avait qu'une chose, c'est louer, n'est-ce pas, cette initiative et les succès, et la hauteur de vue des intellectuels qui étaient là. Ils parlaient même des bandoung, n'est-ce pas, intellectuels noirs de l'époque.
En effet, la presse suit l'événement avec un vif intérêt. Des journaux progressistes aux revues chrétiennes, en France, mais aussi hors de France, aux USA, aux Antilles, au Brésil, au Nigeria, dans le futur Ghana, les pays arabes et jusqu'en Afrique du Sud. La presse écrite, parlée et filmée commente abondamment l'événement. Les écrivains noirs existent, écrivent et en plus, ils parlent. Écoutez la voix d'Aimé Césaire, l'écrivain mène une carrière littéraire, mais ne l'oublions pas, il est également un grand tribun, un grand orateur politique.
Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture. C'est dans ce sens que l'on peut dire que la réunion historique de Bandung n'a pas été seulement un grand événement politique, il a été également un événement culturel de premier rang. Car il a été le soulèvement pacifique d'un peuple affamé non seulement de justice et de dignité, mais aussi de civilisation et de culture.
Et donc, c'était un grand honneur pour moi d'écouter cet ténor, Jutel Benjamin, à la Sorbonne.
Paulin Joachim, poète béninois.
Je découvrais vraiment Césaire, je le connaissais un peu, mais là, je le découvrais à la tribune, parlant avec sa fougue, sa chaleur. Animal, on aurait dit qu'il voulait mordre dans du blanc. Et il devenait presque cannibale avec ses mots, les mots de foudre, les mots de foudre. Il nous communiquait tout cela.
Notre rôle n'est pas de bâtir a priori le plan de la future culture noire, de prédire quels éléments y seront intégrés, quels éléments en seront écartés. Notre rôle, infiniment plus humble, est d'annoncer l'avenir et de préparer l'avenue de celui qui détient la réponse, le peuple, nos peuples, libérés de leurs entraves, nos peuples et leur génie créateur, enfin débarrassés de ce qui le contrarie ou le stérilise. Nous sommes aujourd'hui à un moment très grave de l'histoire. Nous sommes dans le chaos culturel. Notre rôle est de dire, libérer le démiurge qui seul put organiser ce chaos en une synthèse nouvelle. Une synthèse qui méritera, elle, le nom de culture. Une synthèse qui sera réconciliation et dépassement de l'ancien et du nouveau. Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.
C'est la grande scène d'Aimé Césaire, extraordinaire Césaire, un des grands moments du congrès des écrivains de 56, Sara Freyoux-Salgas.
Oui, c'est vrai qu'on ne se lasse pas d'entendre cette expression qui est très forte et très bouleversante et qui est intéressante. Enfin, en tout cas, moi, cette phrase, depuis toujours, est un vrai outil de réflexion. Et finalement, ce n'est pas la première fois que les Noirs demandent à entrer sur la grande scène de l'histoire. 56 est vraiment l'héritier d'un certain nombre de congrès panafricains qui ont eu lieu jusqu'ici. Alors après, ça n'a jamais été aussi fort que des gens se réunissent à la Sorbonne, au cœur du quartier latin. Le symbole est vraiment est évidemment très très fort. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'exposition universelle de 1900, dans le pavillon américain, les Noirs américains ont eu la parole, et notamment Du Bois, commissaire avec d'autres, d'une exposition sur les Noirs américains dans le pavillon américain. C'était une manière d'essayer de montrer aux Européens que les Noirs américains, les Africains américains, faisaient partie de l'histoire américaine. Donc c'est une manière aussi d'entrer dans l'histoire, dans une histoire mondiale.
Cette grande phrase de Césaire, hein, « Laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire » est issue de ce discours « Culture et colonisation ». Et on en retrouve les mots grâce à Présence africaine qui publie les actes du colloque. Et j'ai le livre sous les yeux. Je tiens à remercier Vanadis Feu, qui est responsable de la documentation de RFI, car elle garde précieusement cet exemplaire dont l'édition est épuisée. C'est extrêmement émouvant. On feuillette, ils sont tous là. Quand on revoit la qualité, la plume, la force des textes, on découvre à la fois leur qualité littéraire et leur force politique. Écoutez maintenant le style professoral de Léopold de Cédar Senghor, le cofondateur du concept de la négritude avec Césaire. Senghor, c'est le futur président du Sénégal indépendant. Il monte à la tribune pour évoquer l'esprit de la civilisation ou les lois de la culture négro-africaine.
Nous allons fêter cette année, le 15 octobre 1956, le 80e anniversaire du docteur Price Mars. Comme on vous l'a dit, le docteur Price Mars est le premier qui ait éveillé Haïti à la conscience de son authenticité et même de son être. Mais cette conscience raciale n'est pas une conscience raciste. Le docteur Price Mars a été le premier à nous dire que la civilisation de l'universel ne sera pas le fait d'un seul continent ni d'une seule race. Que la civilisation de l'universel se trouve au rendez-vous du donner et du recevoir. Et il a préparé Haïti et à travers Haïti, tous les Noirs, il les a préparés à se préparer à ce rendez-vous du donner et du recevoir. De telle sorte que aujourd'hui, ou plutôt le 15 octobre, ce que nous fêterons, ce sera le 80e anniversaire de la négritude.
Moi, tu m'aimes, moi je t'aime, tu m'adores, je t'adore, même je t'aime, c'est simple quand même, c'est ça le vrai bonheur, le vrai bonheur. C'est celui que l'on donne, et c'est aussi celui que l'on reçoit.
Nous aussi, on vous aime, Joséphine Baker, dans la marche du monde, artiste afro-américaine engagée pour la cause des Noirs et présente aux côtés d'Alioune Diop au congrès des écrivains des artistes noirs de septembre 1956. Si cette première édition est un succès, Alioune Diop, son initiateur, compte transformer l'essai en instituant un rendez-vous régulier autour de la négritude. Alors que le vent des indépendances souffle partout sur le territoire de l'Empire français, alors que la France s'enfonce dans la guerre en Algérie, Présence africaine convoque la presse en 58, où l'on retrouve l'illustre Jean Price Mars.
Mesdames, messieurs, ce signe de distinction, la couleur de la peau, est l'une des nombreuses séquelles dont la pratique de l'esclavage pendant 300 ans a laissé l'empreinte sur une grande fraction de l'humanité. Notre premier congrès de 1956 voulut réagir en choisissant comme thème, la crise de la culture parmi les écrivains et les artistes noirs. C'est ainsi que nous nous proposons cette année de nous réunir à Rome. Nous voulons démontrer que l'écrivain et l'artiste de couleur, à quelque nationalité qu'il appartienne et en quelque lieu qu'il habite, doit se sentir lié par un devoir de solidarité envers ses confrères noirs, en quelque partie du monde qu'ils soient. Nous avons fait appel à plus d'une centaine de nos confrères d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie à se joindre à nous en ce deuxième congrès. Nous espérons un nouveau témoignage de nos aptitudes à défendre les valeurs humaines dans le monde inquiet où nous vivons à l'heure actuelle.
Bien sûr, le côté positif de 56, c'était l'affirmation de la négritude, la révolte noire. Mais dès qu'on parlait politique, il y a eu deux camps. En 59, ce problème ne s'est plus posé. Il y en a qui étaient plus communistes que d'autres, il y en a qui étaient plus pro-français ou culturalistes que d'autres, etc. Mais ils étaient tous là, d'accord pour l'indépendance, par exemple. Donc, on avait une tendance beaucoup plus engagée politiquement, et il n'y a pas eu de scission. C'est assez impressionnant, cette unité. Et à un tel point d'unité que quelqu'un comme Fanon me dit qu'il n'y a aucun intérêt à faire une thèse sur la littérature négro-africaine ou les écrivains noirs si ce n'est pas pour montrer leur engagement. Là, il a véritablement orienté ma thèse dans ce sens-là. On me le reproche aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est certain qu'à cette époque, le mouvement littéraire et culturel est tellement pris dans l'action historique et le fait que l'histoire à ce moment-là pousse aux indépendances qu'il fallait évidemment que l'écrivain soit engagé à un tel point qu'il pouvait éventuellement se reprocher l'un l'autre de ne pas l'être assez.
Liliane Kesteloute a assisté aux deux congrès, celui de 56 à Paris et celui de 59 à Rome. Elle livre un témoignage inédit de son expérience d'étudiante en littérature africaine, puisqu'elle est la première à rédiger une thèse sur le sujet, une expérience littéraire mais aussi politique et joyeusement humaine.
On a appris qu'il y avait un train spécial pour Rome, dans lequel présence africaine avait des places privilégiées. On est parti avec ce train, avec les gens de présence africaine, c'est-à-dire avec les Africains qui voulaient participer à ce congrès de Rome. Il y avait encore une fois Cheikh Anta Diouf qu'on entendait le plus fort dans les couloirs parce qu'il avait une grande voix. Césaire était là, il y avait Epania aussi et sa femme, il y avait tout le clan des Diop était là. Beaucoup d'étudiants, les gens comme justement Amadi Alidien et Martien Toa. Il y avait aussi des artistes, des peintres nigériens, des chanteurs. Il y avait Sembène Ousmane, Bernard Dadier. Tous ces gens-là étaient dans ce train. Moi, je ne les connaissais pas tous encore. Hein. C'est au moment du colloque même à Rome que j'ai pu identifier avec précision chacun des écrivains que j'ai interrogé là-bas, il y en avait certainement une vingtaine. Hein.
Liliane Kesteloute débat avec Frantz Fanon, qui est alors engagé aux côtés du FLN, le Front de Libération Algérien, contre l'armée française. Fanon avait prononcé une conférence mémorable à Paris en 1956, intitulée « Racisme et culture », seul enregistrement connu à ce jour de sa voix, un document rare.
Dans une première phase, on a vu l'occupant légitimer sa domination par des arguments scientifiques. La race inférieure se niait en tant que race. Parce que nulle autre solution ne lui est laissée, le groupe social racialisé essaie d'imiter l'oppresseur et par là de se déracialiser. La race inférieure se nie en tant que race différente. Elle partage avec la race supérieure les convictions, doctrines et autres attendus la concernant. Ayant assisté à la liquidation de ces systèmes de référence, à l'écroulement de ce schème culturel, il ne reste plus à l'autochtone qu'à reconnaître avec l'occupant que Dieu n'est pas de son côté.
Fanon était là sous une fausse identité, très discrètement, sous le nom du docteur Omar, mais tout le monde savait tout de suite que c'était Fanon.
Il s'appelait docteur Omar parce qu'il était déjà dans la lutte algérienne, il avait déjà échappé à un attentat, etc.
La voix du poète antillais Édouard Glissant, l'inventeur de la créolisation.
Je me souviens que tous les jours, la presse internationale me demandait « Mais monsieur Glissant, qui est ce docteur Omar ?» Et que je répondais « Allez vous adresser au secrétariat du colloque parce que je n'ai pas ce renseignement. »
Fanon, dans le congrès, il a été une des voix majeures. Hein. Non seulement pour l'indépendance, sans aucune réticence, ni compromis, mais qui était en plus pour l'Algérie. On était en pleine guerre d'Algérie, et donc Fanon a essayé à ce moment-là d'obtenir de présence africaine une prise de position. Il est arrivé quand même à faire introduire le problème dans les conclusions, mais n'est pas arrivé à faire un espèce de manifeste qu'il aurait désiré, quoi.
Donc, Fanon était déjà dans une lutte à part. Et il devait sans doute considérer la position de présence africaine comme trop réformiste. Comme il considérait notre position à nous, antillais, quand nous avons fait en 60 et 61 le front antillo-guyanais pour l'autonomie et l'indépendance, il nous a écrit de Tunis en nous disant que nous étions trop mous, trop réformistes sur la question. Donc il avait son point de vue de combattant qui ne pouvait pas être celui de présence africaine.
Bon, enfin non, vous savez, c'est un homme politique aussi, et de ce côté-là, il propose, et puis c'est très bien qu'après, le public dispose.
En 1959, à Rome, le débat entre les écrivains et artistes noirs se radicalise. Et pour cause, certains d'entre eux, comme Franz Fanon, sont engagés dans la lutte armée. Alors c'est tout à fait passionnant d'évoquer Rome, Sarah Friou-Salgas. D'abord parce que Rome n'est jamais évoquée.
En effet, parce que le symbole, c'est 56, mais je trouve que le congrès de 59 est particulièrement passionnant quand on voit vraiment le type d'interventions qui ont lieu, parce qu'en effet, c'est le début des indépendances et que tous les intellectuels qu'on a pu voir en 56 sont là et se disent « bon voilà, les indépendances arrivent maintenant très concrètement ». Comment on va faire? Et il y a des commissions qui vont se créer sur l'économie, l'histoire, l'enseignement, etc. Et c'est en 59 qu'on pense à organiser un premier grand festival culturel en Afrique et qui donnera lieu au premier festival des Arnaques de Dakar en 66. Hein, c'est en 59 qu'il est pensé, ce festival. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on réfléchit à comment arriver à une bonne décolonisation.
Alors justement, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon, sur les moyens que l'on doit utiliser pour arriver à ses fins, c'est-à-dire la décolonisation. Pour César, c'est plutôt la voie pacifique. Pour Fanon, c'est la lutte armée.
En effet, c'est la lutte armée. Il soutient le FLN. Il est d'ailleurs au Congrès. Il est considéré comme un représentant du FLN.
Clandestin.
Clandestin. Mais je tiens à rappeler juste qu'un an avant le Congrès de 59, la maison d'édition Présence africaine va publier un texte très important qui s'appelle le Sand Bandung, qui était la Fédération des étudiants d'Afrique noire, qui avait demandé s'ils pouvaient publier ce texte chez Présence, qui est un texte qui dénonçait violemment la guerre d'Algérie. Donc, c'est encore une fois, on pense toujours que Présence africaine n'était pas vraiment engagé sur ce type de questions. Et dès 58, il s'engage. Et 58, c'est l'année de la publication du livre La question de Halleg, qui est censuré en février. Henri Halleg, pardon, qui dénonçait clairement la torture en Algérie, publié par les éditions de Minuit. Et Présence décide de publier ce texte. 6 mois plus tard, il sait qu'il peut être censuré et il sera censuré. Donc quand même, la maison d'édition Présence, sur la question algérienne, va prendre une position intéressante. Et c'est aussi pour ça qu'il donne la parole à Fanon à ce congrès de 59.
Les écrivains et artistes noirs se sont réunis à Paris en 56, mais aussi à Rome en 59. Le poète malgache Jacques Ramenanjara mesure la dimension fondatrice de la culture noire de ces deux congrès historiques.
Il y avait des communistes, il y avait la droite, il y avait des chrétiens, il y avait des athées, il y avait des gens qui ont leur religion traditionnelle, n'est-ce pas, africaine. Mais nous étions tous ensemble sur le plan de la culture. Il n'y avait pas la moindre anicroche entre nous. Et à Lyon, c'est à Lyon qui, en quelque sorte, dominait tout ça, arrangeait tout ça. Ça marchait très, très, très bien. Et alors, le maire de Rome, qui parrainait notre mouvement, nous dit, mais on va vous recevoir au Capitole. Pour nous, mais c'est le triomphe qui consacre, en quelque sorte, toute la bataille que nous avons faite. Et ensuite, nous avons eu l'immense joie d'être reçu par les Saint-Pères, être reçu par le pape, n'est-ce pas, avec cette diversité d'origine de pensée, croyez-moi que c'était pour nous vraiment, et nous étions tous émus, aussi bien ceux qui étaient peut-être communistes, n'est-ce pas, comme Césaire, Cheikhanta Diop et d'autres, et les chrétiens que nous étions, à l'une et moi, eh bien, on était tous, on avait la même émotion quand on était reçu par Jean XXIII.
Les écrivains noirs reçus au Vatican 59, un souvenir intact raconté par Jacques Rabemananjara. Encore une preuve de l'importance de la démarche menée par Alioune Diop depuis la création de Présence africaine en 47. Faut-il voir une continuité, un processus historique au-delà de la personne d'Alioune Diop, qui est le grand chef d'orchestre de cette polyphonie culturelle, Sarah Friou-Salgas?
Oui, tout à fait. 47, la naissance de la revue où tout le monde peut parler, première étape. Deuxième étape, disons 56, où on commence à discuter, à parler ensemble. Et 59, maintenant les indépendances arrivent. Allons-y, comment on fait? On s'engage. Et c'est toute une réflexion pour accompagner les indépendances. Alors après, il y a la Société africaine de culture hein, qui va être un peu l'outil qui va accompagner tout ça. Le résultat culturel de tout ça, ce sera le festival de 66. Et après, le résultat politique, ce sera quand même en fonction des engagements de chacun. Et aussi la diversité des gens qui ont été publiés dans Présence. On trouvera Nkrumah, Sékou Touré, Lumumba, etc. Tout le monde va être publié chez Présence. Et c'est aussi des tas de voix différentes. Des gens qui ont proposé des options différentes pour une Afrique indépendante.
La cause d'Alioune Diop, c'est celle des Noirs, et c'est pourquoi nous avons intitulé notre série Noir et notre cause, dont vous retrouvez le dernier épisode la semaine prochaine sur le Festival des Arts Nègres de 66 à Dakar. Je vous remercie, Sarah Friou-Salgas, de nous accompagner sur cette série, ainsi que de partager vos archives personnelles. Tous nos remerciements également à Jacqueline Sorel, ancienne productrice de RFI, ainsi qu'à notre documentaliste Françoise Delignon pour les archives sonores de RFI et de l'INA. C'était Paris 56, les intellectuels noirs définissent leur rôle dans les indépendances, une émission de la Marche du Monde écrite avec Amaury Auchard et mise en onde par Cécile Pompéani. Podcastez, téléchargez, écrivez-nous vite sur Facebook, cette émission, c'est la vôtre.